Le débat éco du vendredi avec Thomas Piketty et Dominique Se. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Avant de parler de la campagne et des enjeux économiques, parlons du chômage. Forte baisse au quatrième trimestre 2021, moins 0,6 points. Chômage qui s'établit à 7,4% de la population active. Son très bon chiffre, Dominique Se.
Écoutez, oui, c'est une bonne nouvelle. 7,4% en France, 7,2% en France métropolitaine. Ce chiffre, on ne l'avait pas vu depuis 2008. Et le point intéressant, c'est que si ça continue comme ça, en fait, on se rapproche du plein emploi. Alors évidemment, il faudrait que ça baisse encore un certain nombre de trimestres. Le record en France, c'est 6,9. Donc on n'en est plus très loin. Au-delà des chiffres, ce qui est intéressant, c'est l'opinion, ceux qui nous écoutent peuvent avoir l'impression d'une déconnexion entre des chiffres qui sont très bas et les chiffres publiés chaque mois par Pôle emploi où on dit 3, 4, 5 millions de chômeurs. Alors, il faut expliquer la différence, c'est que le chiffre au sens du Bureau international du travail, c'est la comparaison internationale, il faut être immédiatement disponible. Voilà. Il ne faut pas travailler du tout et être immédiatement disponible. Donc, ça fait une différence par rapport au chiffre de Pôle emploi, mais c'est vrai que c'est le thermomètre international, et c'est une très bonne nouvelle. Alors on peut longuement se demander, est-ce que c'est toutes les réformes mises en œuvre depuis 2014 qui infusent petit à petit, voilà. Mais c'est la puissance du rebond économique de ces derniers mois.
Thomas Piketty.
Alors il faut rappeler, bon déjà le taux de chômage a quand même été en France déjà bien inférieur à 6,9 si on remontait aux années 60, 70.
Ouais,
oui. Le taux de chômage sur la période la plus récente, il était à peu près de 7% à la veille de la crise financière de 2008. Il a monté à 10-11% jusqu'en 2012-2013, donc il a augmenté de 50%. Et là, depuis 2014, effectivement, on est revenu au niveau de 2008. Donc il faut remettre ça en perspective. C'est une bonne nouvelle, mais on a mis 15 ans pour revenir au niveau d'avant la crise financière de 2008.
Et
une autre façon de constater les choses.
Et on reparlera de ces chiffres tout à l'heure à 8h20 dans le grand entretien avec la ministre
du Travail. La très bonne nouvelle, c'est que le taux de chômage
Elisabeth
des
Borne,
jeunes,
qui sera notre invitée.
Voilà, le taux de chômage des jeunes semble particulièrement bas et il bat un record depuis plus longtemps le début des années 80.
Alors nous sommes à 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle. J'ai noté cette phrase ce matin dans le journal L'Opinion du président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Les grands enjeux économiques sont absents du débat présidentiel. Il regrette que le débat se focalise trop autour des questions d'identité. Est-ce que vous partagez cette analyse, tous les deux, l'économie sous le tapis, en quelque sorte, Thomas Piketty?
Oui, l'économie, et plus précisément, moi je pense qu'il y a vraiment deux grands enjeux dont on ne parle pas assez, qui sont le climat et l'éducation. Sur le climat, bon, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière avec Dominique, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on fait comme si la question du nucléaire allait tout régler, alors qu'en fait, dans tous les cas de figure, c'est d'abord dans le renouvelable qu'il va falloir avoir des débats difficiles sur où on construit des éoliennes, du solaire. Ça, on en parle pas assez, c'est un peu passé sous le tapis. L'éducation, c'est vraiment l'autre grand enjeu. C'est-à-dire, moi, je veux vraiment redire à tous ceux qui se soucient de la compétitivité de la France, du déficit commercial, etc., que l'éducation, c'est la clé, non seulement de l'émancipation individuelle, mais aussi de la prospérité économique. Et là, il y a un gâchis dans notre pays. Depuis la crise de 2008, la dépense publique par étudiant a baissé de 20% en France. C'est-à-dire, si vous retirez l'inflation, si vous retirez l'augmentation du nombre d'étudiants, les moyens disponibles par étudiant ont baissé de 20%, dont 12% entre 2017 et 2022, donc pendant ce quinquennat. Et ça, je pense, si on pouvait en parler... Alors, Emmanuel Macron a commencé à aborder le sujet en disant le problème, c'est qu'on n'a pas de droit d'inscription en France par rapport à tous les autres pays. Alors, moi, je suis en désaccord avec cette approche, mais au moins, ça a le mérite de poser le sujet. Là où je suis notamment en désaccord, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le modèle des universités payantes anglo-saxonnes. C'est-à-dire qu'en Allemagne, en Suède, qui sont des pays au moins aussi intéressants pour nous que les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est rigoureusement gratuit, encore plus qu'en France, les universités, avec un investissement public beaucoup plus important et beaucoup moins hiérarchique. C'est-à-dire, nous, on a un système très inégalitaire, et tant qu'on pensera qu'on peut s'en sortir avec juste une fine élite, et alors qu'en fait, ça doit vraiment être un investissement éducatif beaucoup plus large, notamment dans les universités, qui devraient avoir les niveaux d'encadrement qu'on a actuellement dans les classes préparatoires, dans les grandes écoles.
Donc ça, pour moi, c'est l'enjeu. Le climat et l'éducation
sont les deux grands enjeux à terme.
Et le constat sur l'économie, fait par Geoffroy Roux-de-Bézieux, vous le partagez?
Alors, à la différence de Thomas, je ne suis pas d'accord, moi, avec Geoffroy Roux-de-Bézieux. Je ne considère pas... Je pense que c'est... allez, pardon, c'est un peu un poncif, mais y compris médiatique, de dire à chaque fois les campagnes n'abordent pas les vrais sujets. Vous savez, c'est un peu compliqué. On demande en permanence aux candidats d'avoir une vision, et dès qu'ils ils ont une vision, on leur dit soyez concrets. Et donc on est en permanence d'un pôle à l'autre. Et je trouve il y a un certain nombre de sujets qui sont quand même abordés. Le pouvoir d'achat est abordé. On peut discuter de savoir si il y a des réponses qui sont suffisamment frappantes pour les esprits. La question énergétique. Vous avez raison que la question énergétique ne résume pas la question du climat. Oui. Absolument. Oui. Mais c'est abordé comme jamais ça n'a été abordé. Et puis il y a deux points qui me semblent importants à noter dans cette campagne. C'est plus personne ne remet vraiment en cause l'euro. 23 ans, 22 ans dans 20 ans dans nos porte-monnaies.
Contrairement à la présidentielle précédente.
Mais oui, il nous a préservé, il nous a aidé dans cette crise grâce à la Banque Centrale Européenne pendant 2 ans. Tout le monde considère aujourd'hui que c'est un acquis. Et moi, je trouve ça absolument formidable. Alors, il y a une grande absence. Il y a l'éducation de climat, etc., mais on est complètement hors sol sur la question des finances publiques. C'est extraordinaire. Quand on regarde le programme, par exemple, alors on va prendre deux extraits, de Fabien Roussel, qui était lundi matin dans la matinale, on doit être autour de 400-450 milliards de dépenses nouvelles. On est hors sol sur d'autres sujets, sur la crédibilité d'un certain nombre de choses. Quand Éric Zemmour dit...
Les candidats ne financent pas leur programme, c'est ce que vous nous dites,
Dominique. Oui, non, mais le sujet n'intéresse absolument personne. Le sujet n'intéresse ni les candidats, ni l'opinion... ni les commentateurs, à vrai dire. Et donc, il y a une sorte de... Voilà, on verra plus tard. C'est le quoi qu'il en tousse, ordinaire et généralisé. Alors, les taux d'intérêt sont en train d'en remonter.
Heureusement, la Cour des comptes est là pour nous rappeler que c'est important. La dette, oui. Alors, sur la dette, vous savez...
Vous dites ça gentiment, je le sens.
Il y a deux, ça veut dire que ça n'est pas important,
non,
Thomas
c'est
Piketty.
Pas ça. Je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles je vais insister sur la dette. D'abord, il y a une dette écologique, une dette éducative, qui, à long terme, n'est pas une dette de papier, là, pour le coup, est une dette sur laquelle on ne pourra pas revenir en arrière, qui est encore plus importante que la dette financière. Donc ça, c'est le premier point.
Vrai.
Le deuxième point, c'est concernant la dette financière publique proprement dite, qui est également un sujet important. Je pense qu'on vit dans une période où, d'une certaine façon, la fuite en avant vers la dette, qui a commencé bien avant le Covid, qui n'a fait qu'accélérer le processus, est la conséquence d'une espèce d'impossibilité perçue, en tout cas, de l'impôt juste. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où on a l'impression, mais c'est en grande partie la réalité, que les acteurs économiques les plus puissants, les multinationales, et aussi les milliardaires, échappent complètement à l'impôt. Et de fait, si vous regardez les taux d'imposition des multinationales, les taux d'imposition des milliardaires, vous avez cette enquête l'an dernier du site ProPublica qui avait sorti les 400 déclarations des milliardaires américains qui ne payent quasiment aucun impôt fédéral sur le revenu en proportion de leur fortune et en proportion de l'accroissement de leur fortune. Et c'est la même chose en France. Tous les éléments qu'on a, c'est la même chose. Et donc, ça, cette perception fait que les classes moyennes, les classes populaires n'accepteront jamais de payer plus d'impôts pour réduire la dette, réduire le déficit, avec cette réalité. Et donc, la solution de facilité, effectivement, comme personne veut payer, c'est on va en avant vers la dette. Moi, ça me fait penser historiquement, si on essaye de mettre les choses en perspective historique, parce que ces questions de dette publique très élevées, elles sont déjà arrivées plein de fois dans l'histoire, c'est pas la première fois, on va s'en sortir. Au XVIIIe siècle, ça y a longtemps, mais sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française, on était dans cette situation où on avait des aristocrates qui ne payaient pas d'impôts, vous aviez des privilèges fiscaux, la fuite en avant vers la dette était aussi une solution au fait que le peuple en avait assez de payer des impôts.
Donc on va vers 1789,
je pense que l'abolition des privilèges des milliardaires et des multinationales est évidemment la meilleure solution. Après, il peut y avoir d'autres solutions. C'est-à-dire, là, on voit un risque d'inflation qui commence, qui est effectivement l'autre façon de régler problème de dette, c'est bien moins... c'est pas la solution préférable, évidemment.
Dominique, on ne peut plus parler d'impôts et donc on ne parle pas de la question de la dette, nous dit Thomas Piketty.
D'impôts justes, surtout. On parle quand même des impôts. Il y a eu un gros débat sur
la succession
il y a quelques semaines.
La question de la dette.
Ah ben la question de la dette. Non mais, en fait, ce qui se passe et qui est incroyable, c'est que aucun candidat considère que c'est un vrai problème. Quand vous regardez ce qu'a prévu le gouvernement pour l'évolution de la dette dans les années qui viennent, alors s'il était reconduit Emmanuel Macron, j'imagine, mais c'est une stabilité de la dette en pourcentage du PIB juste dans les 5 ans qui viennent, autour de 115%. Alors qu'on a un écart absolument.
Mais la question, c'est pourquoi aucun candidat ne met ça en tête
parce que,
certains candidats
proposent de rétablir l'impôt sur la fortune et d'autres non. Donc c'est pas pour le plaisir, c'est bien pour rembourser la dette.
C'est parce que les candidats et l'opinion publique, nous avons été biberonnés depuis 2 ans au quoi qu'il en coûte et on a du mal à réatterrir. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous annonce, on parle de 2 milliards, 3 milliards, que ce soit pour des hausses d'impôts ou pour des baisses de prestations ou des économies, 2 milliards, ça ne parle à personne. L'unité de mesure aujourd'hui, c'est en dessous de 10 milliards, c'est un sujet que personne n'évoque. Et donc, il y a un atterrissage. Mais si on donne juste quand même la différence entre l'Allemagne et la France, c'est ce que rappelle la Cour des comptes dans le rapport qui a été publié cette semaine, c'est qu'en 2006, la France et l'Allemagne avaient exactement le même niveau de dette en proportion de leur produit intérieur brut, autour de 60%. Aujourd'hui, l'Allemagne est encore à 60%. Elle a monté en 2020 et elle a redescendu depuis. Et la France est à 115%. Si je calcule bien, 60-115, ça fait beaucoup d'écart.
Il y a un sujet écho dont vous avez commencé à parler, Dominique, ce sont les droits de succession dont les candidats parlent, à droite et à gauche. Il y a des propositions, alors que 90% des héritages en France ne sont pas taxés. Comment est-ce que vous expliquez, Thomas Piketty, que ce sujet arrive sur la table ?
C'est la question du patrimoine, de l'accès au patrimoine, c'est moins important que le climat et l'éducation, mais c'est aussi une question très importante parce que, d'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. On est dans une situation où, en gros, la moitié de la population ne possède quasiment rien, c'est-à-dire 50% des Français qui possèdent le moins, possèdent, donc c'est en dessous de 100 000 euros de patrimoine par adulte, possèdent à peine 5% de tout ce qu'il y a à posséder. Les 10% qui possèdent le plus possèdent 55% de tout ce qu'il y a à posséder. Et donc, en particulier, au niveau de l'héritage, les 50% des enfants qui vont hériter le moins héritent de quasiment rien, 5% du total, les 10% qui héritent le plus, de plus de 60%. Et c'est une situation qui est non seulement injuste en termes d'égalité des chances, mais très mauvaise du point de vue du dynamisme économique, parce que vous avez toute une énergie de jeunes qui ont plein d'idées, plein d'initiatives, qui n'ont pas les moyens, et d'autres qui parfois en ont un peu trop et ne savent pas quoi en faire. Donc là, il y a un vrai sujet, et en même temps, il y a un vrai souci aussi de l'opinion sur ceux qui vont déjà recevoir si peu. Quand on leur parle de droit de succession, ils disent « Non mais attendez, vous n'allez pas en plus me prendre ce qui est si peu. » Donc c'est un sujet extrêmement sensible et je pense que deux choses. De façon générale, si on veut parler des réformes de droit de succession, il faut aussi parler de la réintroduction de l'impôt sur la fortune, de l'impôt annuel sur le patrimoine. La taxe foncière est un impôt très lourd pour tous ceux qui veulent accéder au patrimoine. Vous savez, ça ne prend pas en compte les dettes. Donc vous essayez d'acheter un appartement de 100 000, 200 000 euros, vous êtes endetté jusqu'au cou, vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui n'a aucun emprunt sur le dos et qui aurait un portefeuille financier d'un million d'euros. C'est complètement injuste et il faudrait changer ça. Le deuxième point sur les droits de succession, pour bien comprendre les propositions des candidats, c'est que le système actuel est assez compliqué. Donc le système actuel, c'est vous pouvez transmettre 100 000 euros à chacun de vos enfants. Donc chaque parent peut transmettre 100 000 euros à chacun de ses enfants tous les 15 ans. Et alors c'est là que ça devient compliqué. C'est qu'en fait, une famille qui s'y prend bien, qui s'organise bien à l'avance et qui utilise plusieurs fois cet abattement peut potentiellement transmettre plus d'un million d'euros à un couple avec 2 enfants sans impôt. Mais par contre, quelqu'un qui connaît pas la législation, vous voyez, les personnes qui en fait ne connaissent pas ça ou qui ont un patrimoine, vous savez, si vous avez juste votre logement, vous pouvez pas facilement le découper en tranches comme ça. Par contre, là, vous pouvez vous retrouver à payer des droits de succession, y compris une personne seule qui cède un logement de 130 000 euros va se retrouver à payer. Et je pense que les propositions des candidats par rapport à ça, pour y venir, Valérie Pécresse a dit, ça va pas lui être tous les 15 ans 100 000 euros, ça va être tous les 6 ans. Mais ça va encore plus augmenter, disons, pour ceux qui connaissent le système, les possibilités d'échapper. Et je pense que ce serait beaucoup plus sain si on disait, voilà, il y a un montant qui peut être de 150 000, 200 000, 300 000 euros qu'on peut recevoir tout au long de sa vie, que ce soit par donation, succession, qui échappe à l'impôt. Et après, les candidats pourraient être et au-dessus, on commence à payer progressivement. Après, les candidats pourraient être en désaccord sur ce seuil. Mais vous voyez, le système actuellement est déjà tellement complexe, juste pour comprendre les propositions des candidats, si on pouvait simplifier le système, ce serait déjà...
Sur ce point des droits de succession.
C'est assez mystérieux que le sujet des droits de succession soit entré dans le débat dans la bouche de la plupart des candidats. À mon avis, il y a une raison, alors que 90% des Français ne payent pas de droits de succession. Je pense que c'est... la plupart des candidats se disent on va rééditer le coup d'Emmanuel Macron en 2017 qui avait inventé la suppression de la taxe d'habitation, qui était un marqueur extrêmement simple à comprendre. Et les candidats se sont dit, tiens, il y a une martingale, il y a quelque chose qui peut marcher. Sauf que la quasi-totalité des Français ne le paye pas. La plupart des économistes considèrent que ils sont très divisés sur l'imposition de la fortune. En revanche, sur la taxation des successions, ils y sont plutôt globalement favorables. Parce que c'est...
L'opinion publique, c'est le contraire. Et à mon avis, en l'occurrence, l'opinion a plus de bon sens que les économistes.
Terminé, Dominique, il vous reste 30 secondes.
Voilà. Je pense notamment en matière immobilière qu'il y a des transmissions qui constituent, qui créent des vraies inégalités aujourd'hui, et que la taxation des successions, notamment immobilières, serait quelque chose d'assez légitime. On se souvient que dans la plupart des grandes villes, les deux tiers des appartements mis en location appartiennent à des propriétaires qui mettent en location plus de 5 appartements. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En revanche, pour les entreprises, il faut faire très très attention.
Voilà, nous avons c'est terminé.
Sur les entreprises que sur l'immobilier,
Thomas Piketty, nous avons parlé des enjeux économiques de cette campagne grâce à tous les deux, Thomas Piketty, Dominique Seb. France Inter.